Donc, début de l'année, nous avions commencé une petite série de prédications sur le thème de l'espérance chrétienne. On va la poursuivre après Pâques, hein, mais déjà, on peut clore une partie de la série. Hein. On a déjà approfondi des thèmes comme le retour du Seigneur, la vie avec le Seigneur après la mort, hein, c'était la semaine passée, donc j'ai dit, on parlera de la résurrection et de la joie et la béatitude éternelle après Pâques. Mais aujourd'hui, je pense que c'est bien de clore cette première partie de la petite série avec, en parlant du jugement. Alors, on va dire, ouais, ben c'est bizarre de mettre le jugement dans la série sur l'espérance. Mais on comprend bien que si le mal est jugé, c'est effectivement une espérance. Ça serait le pire des avenirs de savoir que le mal ne serait jamais jugé. Non, le mal sera jugé, et c'est là ce qui fonde notre espérance également. Mais c'est vrai que c'est un message sombre pour ceux qui auront préféré les ténèbres à la lumière. Alors la question se pose, qu'est-ce qu'ils deviennent, ceux qui ont préféré les ténèbres à la lumière? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils seront sauvés à la longue? Est-ce qu'il y a une seconde chance? Est-ce qu'ils seront anéantis? Est-ce qu'ils vont en enfer? Et qu'est-ce que c'est que cet enfer? Alors, d'abord, en introduction, on peut dire que nous ne croyons pas en l'enfer du Moyen-Âge. C'est-à-dire celui qu'on voit sur les porches de certaines cathédrales, où on voit des gens qui sont jugés, qui vont en enfer pour être tourmentés par des démons, avec des fourches, des machins et tout ce qu'on veut. On ne croit pas plus à l'enfer qu'on voit sur certaines brochures, éditées par certaines brochures d'évangélisation populaire publiées par certains auteurs évangéliques simplistes. On voit la même chose parfois. Alors, qu'est-ce qui reste? Eh bien, nulle part dans la Bible, on enseigne qu'il y aurait un royaume qui serait la contrepartie du ciel, et où Satan régnerait en maître, et où il attendrait avec ses démons de faire souffrir les humains. Au contraire, la Bible attend le jour où tout genou, on le chantera tout à l'heure à nouveau, où tout genou fléchira devant le Christ, où toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. On aime bien ce cantique, hein? Jésus-Christ est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Nous attendons ce jour, et voilà ce que la Bible annonce. Elle dit même que les anges seront soumis à Christ, tous, que les pouvoirs, tous, que les puissances, toutes, seront soumises au Christ. Que le diable et ses adjoints, eux-mêmes, seront dans les temps de feu. Mais Jésus-Christ enseigne que tous les hommes seront jugés et qu'un tri se fera. Que certains seront pour toujours dans la joie de leur Dieu, nous pouvons en être sûrs, c'est l'assurance qui est basée sur l'œuvre et la personne de notre Sauveur, et Dieu est Sauveur, alors que d'autres seront dans les ténèbres du dehors. Et c'est une expression qui revient à plusieurs reprises. Alors on va lire plusieurs passages, puisqu'il y a plusieurs passages intéressants. Au lieu d'en lire un, on va en lire plusieurs, mais sélectionnés, coupés un petit peu. Plusieurs passages qui nous permettent d'entrer dans le cœur du sujet biblique, de ce sujet biblique important. Et donc, en se posant la question, quel est le sort éternel des humains, des rachetés et des autres? Alors, ces passages apparaissent devant vous, ils sont un peu rassemblés, ça aurait été bien de les séparer peut-être. Alors, Daniel 12, 2, c'est pour mémoire. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Marc 9, c'est Jésus qui parle, versets 47-48. Si ton œil te fait tomber dans le péché, jette-le au loin. Il vaut mieux pour toi entrer avec un seul œil dans le royaume de Dieu que de garder les deux yeux et d'être jeté en enfer, où le ver rongeur ne meurt point et où le feu ne s'éteint jamais. C'est Jésus qui parle. Matthieu 13, juste une autre sélection, 47-50. Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Des pêcheurs ont jeté en mer un filet qui ramasse toutes sortes de poissons. Une fois qu'il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage, puis ils s'assoient autour et trient leur prise. Ce qui est bon, ils le mettent dans des paniers. Ce qui ne vaut rien, ils le rejettent. C'est ainsi que les choses se passeront à la fin du monde. Et Jésus parle là en clair maintenant. Les anges viendront et sépareront les méchants d'avec les justes et ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Et donc j'ai choisi aussi ce verset aussi qui dit beaucoup de choses très clairement. Matthieu 25, 46. Après la parabole du jugement, donc c'est dans le bon contexte. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Le même mot éternel. Et pour finir, un verset qu'on rappellera tout à l'heure, Apocalypse 14, 11. La fumée de leur tourment s'élèvera à perpétuité. Quiconque adore la bête et son image, quiconque accepte la marque de ce nom, ne connaîtra aucun repos, ni de jour, ni de nuit. Aucun repos. Voilà les textes les plus sélectionnés, hein, les plus incisifs et qui permettent d'introduire ce sujet. Alors tout d'abord, il faut parler de tri. Il y a dans cette parabole du filet que j'ai citée en Matthieu 13, comme dans d'autres paraboles que nous avons regardées il y a quelque temps, il y a quelque chose d'extrêmement choquant, on avait déjà insisté là-dessus, d'extrêmement choquant pour les mentalités modernes, c'est la notion d'un tri. Dans nos pays occidentaux, eh bien, nous ne sommes pas censés faire de discrimination, hein, raciale ou sexuelle. Hein. Nous ne devons pas faire de sélection, hein, à l'entrée des universités. Nous sommes très attachés à la possibilité d'un rattrapage, que ce soit à l'école, que ce soit dans les cours de justice. Les ténors du barreau, hein, plaident souvent la seconde chance, même pour les pires des criminels. Les pires crapules. Et dans le domaine spirituel, beaucoup de Français, hein, croient à ce vaste redoublement qu'est le purgatoire. Et on voit aussi des choses approchantes dans les séries télé, dans les, hein, etc. Des adaptations modernes. Alors je crois que c'est vrai. Hein, dans un sens, cet attachement à une deuxième chance est quelque chose de profondément chrétien. Jésus a tendu la main à toutes sortes de gens que la société rejetait et qui étaient considérés comme des rebuts, hein, consignés au rebut. Hein, les prophètes aussi appelaient les pires des pécheurs à la repentance. Mais seulement, il faut ajouter, que la Bible n'enseigne pas qu'il sera toujours possible de se rattraper. Elle parle d'un tri qui aura lieu un jour, d'un jugement, hein, avec un grand J, le jugement dernier, et de la possibilité d'une condamnation qui sera là sans appel. Et Jésus a dit plusieurs fois dans ce genre de contexte, « Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » C'est des paroles très claires. Alors qui dit cela? Ce n'est pas un des apôtres qui serait mal réveillé ce jour-là? Non, non, c'est le doux Jésus dont a parlé un cantique tout à l'heure, le doux Jésus, qui dit les paroles les plus claires, les plus incisives, les plus clairs. Alors, si on a dit cela, il faut ajouter que dans les passages que nous avons lus, les mots qui décrivent le sort final de ceux que Dieu ne connaît pas sont à étudier également. Il y a des mots pour le dire et il faut bien les comprendre. Ce sont tous des mots de notre univers à nous. Donc Jésus a parlé pour être compris. Il parle d'un feu, il parle d'un étang de feu et de soufre, il parle d'une fournaise ardente, il parle d'un lieu où le ver qui ronge n'arrête jamais. Et il parle d'un lieu de ténèbres, il parle d'un lieu loin de Dieu et d'être au dehors. Alors ce sont tous des mots clairs et effroyables. Mais ces mots ne vont pas toujours bien ensemble. Donc, ça nous appelle à réfléchir un petit peu. Par exemple, chez nous, le feu éclaire. Bien. Alors, il peut éclairer comme une petite bougie, donc il peut éclairer comme un immense incendie, hein, dans la nuit. Mais Jésus parle de feu et de ténèbres en même temps. Tiens, ça doit nous faire réfléchir. Chez nous, le ver qui ronge est tué par le feu. Mais là, ce n'est pas le cas. Il est tué dans le feu, illico presto. Mais là, ce n'est pas le cas. Chez nous, quelqu'un qui serait jeté dans un étang de feu arrêterait bien vite de pleurer et de grincer des dents. Ce n'est pas le cas là non plus. Donc ça veut dire que nous avons affaire à une réalité qui est tout autre que celle de notre monde à nous, mais qui est quand même une réalité. C'est une réalité qui reste bien du domaine de la réalité. Quelle que soit l'image employée, elle garde toujours quelque chose de redoutable. Alors, deux passages de l'Apocalypse utilisent une expression, il faut ajouter, qui résume un peu le tout. C'est l'expression de seconde mort. Par exemple, Apocalypse 20, versets 14 et 15. « Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. » Cet étang de feu, c'est la seconde mort. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Quant aux lâches, donc un autre passage, Apocalypse toujours, un peu dans la fin de l'Apocalypse toujours, Apocalypse 21:8. Mais les lâches, les infidèles, les dépravés, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Donc, si la mort est jetée dans l'étang de feu, ça ne peut pas être à prendre donc au pied de la lettre. Mais, et donc, ce qui nous éclaire, pour parler de cette seconde mort, c'est qui a une portée donc éternelle, c'est que nous, dans la Bible, on parle de deux morts, au moins. La première mort, c'est évident, c'est la mort physique que connaissent tous les humains. Adam est mort à 930 ans, Mathusalem 969, enfin voilà, vous pouvez apprendre les chiffres, mais ça se termine toujours par la mort physique. Mais la Bible parle d'une autre mort. Parfois la Bible parle de mort quand il s'agit d'une mort spirituelle, c'est-à-dire d'une séparation avec Dieu. Donc la mort dans la Bible, c'est la séparation, c'est surtout la séparation avec Dieu. Adam et Ève sont morts, non pas quand ils avaient 900 ans, ils sont morts déjà le jour où ils ont tourné le dos à Dieu, où ils ont voulu vivre de façon indépendante, hors de Dieu, loin de Dieu. Et donc, ils ont continué à vivoter ensuite avec leur corps, mais ils étaient déjà morts spirituellement. Les chrétiens d'Éphèse, dont parle Paul en Éphésiens 2, eh bien, ils sont morts. Paul dit qu'ils sont morts, ils étaient morts à cause de leurs péchés. Vous étiez morts à cause de vos péchés. Donc, ils étaient bien en vie, quand Paul leur écrit, mais physiquement, mais ils ont pu se convertir à Dieu. Donc, la seconde mort, eh bien, c'est la séparation avec Dieu, mais dans un état définitif, un état qui va durer. C'est un état fixe de séparation avec Dieu. Plus rien ne bouge, plus rien ne change. Les gens sont comme figés dans le remords, tout en reconnaissant, et c'est ça qui est important aussi, que les jugements de Dieu sont justes. Donc la seconde mort sera l'état absolument final dans lequel les réprouvés, pour résumer, continueront d'exister de façon fixe en portant un regard de regret sur eux-mêmes, en condamnant selon la vérité ce qu'ils auront fait durant leur vie, mais sans aucun changement. Rien d'autre n'y sera possible, pas d'avenir. Alors à propos du jugement de Dieu, du juste jugement de Dieu, la Bible enseigne donc maintenant quatre choses. Tout d'abord, premièrement, que chacun, il faut bien mettre les quatre choses de façon séparée. Premièrement, que chaque homme, chacun sera jugé en fonction de ce qu'il aura fait. Pas en fonction de ses belles paroles, et Jésus en parle souvent, ou de ses honorables intentions. Non, ce sera factuel, ce sera des faits. Alors, deuxièmement, chacun sera jugé en fonction des lumières qu'il aura reçues. Jésus aussi insiste beaucoup là-dessus. Il y aura une différence de traitement entre ceux qui auront eu une bonne connaissance des choses, de la morale, de la Bible, et puis de ceux qui auront grandi sans rien savoir de tout cela. Puis troisièmement, ce juste jugement ne pourra aboutir qu'à la condamnation du monde entier. Tout le monde serait condamné sur cette base-là. Car tous ont péché, connaissant beaucoup, pas beaucoup, tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu, comme dit Romains 3, 23, de la glorieuse présence de Dieu. Tous. Tous les hommes sont enfermés dans la condamnation. Mais, voilà la bonne nouvelle de l'Évangile, le Christ a porté nos péchés qui sont en son corps sur le bois, il a porté à notre place le juste jugement de Dieu. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Et donc ceux qui étaient là avant sa venue, ceux d'avant sa venue, qui ont placé leur confiance en un Dieu de grâce, plutôt qu'en leurs exploits moraux ou spirituels, échapperont à la condamnation. Et si toutefois leurs œuvres prouvent qu'ils ont vécu dans la foi authentique en Dieu. Et ceux d'après sa venue, et nous y sommes, ceux d'après la venue du Christ qui auront placé leur confiance en lui, échapperont eux aussi à la condamnation, si leurs œuvres prouvent qu'ils ont vécu dans la foi en Dieu. Et c'est pour cela qu'il est dit, en Jean 3, 16, ce verset qu'on connaît bien, « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition, c'est ça le mot original, et qu'ils aient la vie éternelle. » Voilà donc de quoi le Seigneur nous a sauvés. Alors, on sait bien maintenant de se poser une autre question gênante sur ce thème. Tout ceci n'est-il pas en contradiction avec l'idée que Dieu est un Dieu d'amour? Donc on oppose parfois le châtiment éternel et le Dieu d'amour. Et on se dit, mais comment Dieu peut-il supporter que les humains souffrent éternellement? Alors là, il faut parler de l'amour. Dieu est amour. Jean chapitre 1, premier épître de Jean, c'est dit à plusieurs reprises. Le Dieu d'amour, on en parle. Mais qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle du Dieu d'amour, quand on parle de l'amour? Comment est l'amour de Dieu? De quel amour s'agit-il? Alors, il y a plusieurs sortes d'amour dans le langage courant, dans les conceptions humaines. Il y a l'amour qui est une passion dévorante. On voit ça dans les films romantiques. C'est un peu comme l'ivresse. L'ivresse d'une passion, l'ivresse d'une nuit de noces. Oui, un autre amour, c'est l'amour qui accapare. L'amour qui a besoin de l'autre pour exister. Là aussi, c'est une réalité profondément humaine aujourd'hui. Ça peut être l'amour d'une mère qui ne veut, d'un parent, qui ne veut absolument pas que ses enfants entrent dans la vie adulte. Ça existe. Ça peut être l'amour entre guillemets d'un mari jaloux, violent, qui ne laisse aucune place à la vie de son épouse, etc. On appelle ça, c'est un amour qui accapare, c'est une déformation de l'amour. Ou alors il y a un autre amour dont on parle souvent et qu'on a dans notre tête quelque part, c'est l'amour d'un grand-père sénile. Il y a des grands-mères séniles aussi. L'amour de grands-parents un peu séniles, qui ne font plus la différence entre leurs petits-enfants ou leurs arrière-petits-enfants, et qui adorent leurs petits-enfants, qui leur passent tout, qui prend ce genre d'amour prend plaisir à être abusé même, presque, on a l'impression. Alors, de quel amour Dieu nous aime? Et quand il est dit Dieu est amour, de quoi s'agit-il? Ah ben, l'amour de Dieu n'a rien à voir avec tout cela. L'amour de Dieu n'est rien de tout cela. Rien. Il n'a pas besoin de nous. Il est simplement généreux. Il est fort. Il est saint. Il est juste également. Il est donc dans sa nature, la nature de Dieu, de laisser ses créatures responsables de leur choix. C'est redoutable, mais c'est ainsi que Dieu nous aime. Et de juger leur choix ensuite. Alors, on comprend, ceci étant dit, il y a un autre problème, hein, c'est les stratégies pour éviter de croire, hein, à ce que dit la Bible. Hein. Ce que nous sommes en train de dire sur la ruine éternelle semble tellement dur que l'on a élaboré, hein, toutes sortes de stratégies pour éviter d'y croire. Alors, c'est toujours la même chose. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, hein, sous le soleil. Hein, ce sont des stratégies qui ont existé, hein, qui ont toujours existé, qui reviennent encore aujourd'hui avec des habits nouveaux, mais c'est la même chose. Alors, il y en a plusieurs, mais on va en retenir deux. La plus courante, c'est de croire que nous irons tous au paradis. Alors, il y a des chants là-dessus. Hein, je ne vais pas le chanter, parce que c'est ça que vous retiendriez de la prédication. Hein. Non, c'est donc nous irons tous au paradis, ça veut dire c'est la croyance de monsieur tout le monde. C'est on entend ça dans le monde, mais on entend ça dans certaines églises, hein, catholiques ou protestantes. Et ça consiste à dire, oui, hein, si vous voulez, il y a un enfer, mais il sera vide. Car tous les êtres humains, au bout du compte, seront sauvés. Donc ça veut dire que ceux qui croient ça, eh bien, croient donc que tout le monde sera finalement sauvé et l'habit d'habit religieux en disant oui, c'est à cause de l'amour de Dieu, à cause de la grâce de Dieu imméritée. Alors, cette pensée-là s'appelle universalisme. Tout le monde sera sauvé finalement. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre ? Sinon que ça serait très réconfortant, si c'était vrai. On aimerait bien, dans un sens, que ça soit vrai, mais on est lié par la parole de Dieu. Il ne se trouve pas beaucoup de chrétiens attachés à la Bible pour y croire. Pourquoi ? Ben parce qu'ils sont liés, comme nous sommes, par les paroles de Jésus. Par exemple, on va en citer une, Matthieu 7, 13-14. « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, facile la route qui mène à la perdition. » C'est le même mot que tout à l'heure. Jésus nous a sauvés, hein, de la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Hein. Qu'ils sont nombreux, hein, qu'ils sont peu nombreux plutôt, ceux qui les trouvent. Alors, si on croit en Jésus, on ne peut pas être universaliste dans ce sens-là. Alors, il y a une autre stratégie, hein, pour adoucir la notion d'une ruine éternelle. C'est de dire que c'est vrai, la vie éternelle est une vie qui a une qualité éternelle, une durée éternelle, mais que la mort éternelle, c'est une ruine définitive qui implique la disparition pure et simple de ceux que Dieu a jugés. Ça veut dire qu'au jugement, Dieu anéantira tous ceux qui lui ont tourné le dos. Cette pensée-là, on l'appelle l'annihilationnisme, c'est-à-dire l'anéantissement. À l'issue du jugement, les impénitents qui ne se sont pas tournés vers Jésus-Christ en cette vie seraient anéantis, annihilés, hein, du mot nihil qui veut dire en latin rien, hein, néant. Donc ils seraient anéantisés. Alors, on est lié là aussi par la parole de Dieu. J'ai lu ce verset, hein, pour n'en citer qu'un, hein, de Matthieu 25, dans le bon contexte, hein, Jésus parle d'un châtiment éternel et de l'autre côté, de la vie éternelle. Si le mot éternel ne veut pas dire la même chose des deux côtés, on n'y comprend rien. Hein. Si on dit qu'il n'y a pas de châtiment éternel, eh bien, on est obligé de dire qu'il n'y aura pas de vie éternelle non plus, parce que c'est le même mot qui est employé des deux côtés. Là, nous sommes liés par les Écritures. Alors, il reste quand même un problème. Comment concilier l'idée d'un châtiment éternel et conscient avec l'enseignement qui est rappelé dans plusieurs versets de la Bible, surtout dans les épîtres de Paul, l'enseignement qui dit que Dieu rétablira un jour toute chose et que tout sera réuni sous l'autorité du Christ et sera réconcilié ainsi avec Dieu. Alors, il y a deux versets qui semblent aller dans ce sens. Par exemple, Éphésiens 1:10. Ce plan, hein, donc le plan de Dieu, Dieu l'a fixé dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être un jour réuni sous le gouvernement du Christ. Tout. Et puis Colossiens 1:20, hein, qui est le passage un peu parallèle, hein, Éphésiens, Colossiens, des épîtres qui se ressemblent beaucoup. Et Colossiens 1:20 parle de l'univers entier réconcilié avec le Christ. Et c'est par Christ, deux points, c'est par Christ que Dieu a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, donc rien n'échappera, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Donc il faut se demander, quand on a ce genre de versets, on les lit souvent un peu rapidement, on se dit oui, on n'y accorde pas tant d'importance, mais certains y accordent beaucoup d'importance en déformant ces mots. Alors il faut se demander ce que signifie le mot réconcilier, tout simplement, dans ce contexte. Réconcilier ne veut pas dire sauver, hein, dans ce contexte, mais remis dans l'ordre, hein, pacifié, remis à sa place. Hein. Ça veut dire que ceux qui étaient des ennemis, Dieu, un jour, a triomphé Dieu à deux par la croix. Ils sont désormais, ils vont être remis dans l'ordre de Dieu. Mais justement, l'enfer, hein, fait partie lui aussi, hein, de ce qui est soumis à Dieu. Aucune réalité ne sera exempte de cette soumission à Dieu, hein, dans l'univers. Et là aussi, l'enfer fait partie de ce qui est soumis à Dieu, il fait partie du gouvernement de Dieu. Donc ça veut dire que ceux qui se trouvent jugés sont en quelque sorte remis à la bonne place qu'ils ont quittée, hein, par leur révolte. Aussi, un jour, confesseront que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Si tous confessent que Jésus est Seigneur, ce ne sera pas par contrainte, hein, mais ce ne sera pas par la force physique, ce ne sera pas sans y croire, ou en faisant semblant d'y croire, ça serait la pire des hypocrisies. Hein. Mais ça sera vraiment... Hein, parce qu'ils en sont persuadés par la pleine lumière de l'évidence. S'il y a contrainte, ce sera celle de la vérité qui va se manifester dans leur conscience, qui va s'imposer à tous. Nul ne pourra faire autrement que de reconnaître Jésus comme étant le Seigneur. Nul ne pourra donc persister dans cette révolte ouverte. Alors, ça veut dire qu'il n'y aura plus ce désordre qu'est le crime resté impuni. Le problème du mal sera réglé de cette façon-là. La victoire sera à Dieu. Le dernier mot, hein, c'est Dieu qui l'aura. Hein. Voilà donc ce qu'implique ce genre de mot, hein, et qui remplit l'apôtre Paul, et on le comprend, d'une grande espérance, d'une grande paix. Hein. Et en effet, donc... des passages qui parlent du jugement impliquent, donc ces passages impliquent non la disparition des condamnés, mais leur amer regret des ténèbres du dehors, il est dit, les pleurs et les grincements amers, hein, des dents, dedans. Donc un passage de l'Apocalypse est particulièrement clair, c'est redoutable, hein, parlant, je l'ai lu tout à l'heure, des adversaires de Dieu, il est dit, la fumée, Apocalypse 14, 11, la fumée de leur tourment s'élèvera à perpétuité, quiconque adore la bête et son image, quiconque accepte la marque de son nom ne connaîtra aucun repos, ni de jour, ni de nuit. Si les mots ont un sens, eh bien, les choses sont claires, et particulièrement claires, dans ce texte. Alors, allons vers la conclusion. On a essayé de résumer les grandes questions, les grandes lignes, de façon la plus brève, la plus soutenue. Alors, concluons en disant que on aurait envie tous que les choses soient différentes, mais tous, tout le monde. Hein. Mais on se méfie de cette envie-là. Et il faut s'en méfier. Hein. Parce que c'est une envie qui vient, hein, d'un cœur humain, hein, limité par le péché, hein, qui n'a pas la pensée de Dieu. Si j'allais dans ce sens-là, c'est que je m'estimerais plus sage que Dieu, qui lui, dans la Bible, clairement va dans l'autre sens. C'est que je m'estimerais plus juste que Dieu, plus aimant que Dieu. Bien sûr que non, je ne suis pas plus juste, plus aimant, plus sage que Dieu. Il est seul sage. Mais il est certain par contre, et la Bible nous éclaire là-dessus, que contrairement à Dieu, eh bien, je ne ressens pas comme lui le poids énorme du péché. Je ne ressens pas comme lui l'indignation contre le mal. Mon indignation est faible parce que je suis pécheur. Et je n'ai pas un sens de la sainteté très aiguisé, autant que l'est celui qui est le saint. Donc, il faut donc rester avec ceci. Lorsque le grand tri sera à la fin des temps, interviendra, se fera à la fin des temps, certain. Le plus grand nombre, dit Jésus, c'est Jésus qui le dit, dans un passage clair, le sermon sur la montagne, pas un passage imagé, le plus grand nombre sera loin de Dieu, enfermé dans un remords permanent. Alors que d'autres qui ne méritaient pas mieux, nous, entreront dans la joie de leur maître, on l'a dit dans les paraboles des semaines passées. Donc c'est vrai qu'on n'aime pas prêcher là-dessus, dans certaines églises on ne prêche plus là-dessus, même si on croit encore à cette doctrine biblique, mais on a tort de ne pas prêcher de temps en temps là-dessus, pour deux raisons. D'abord, cela nous permet de comprendre l'importance de l'annonce de l'Évangile. L'annonce de l'Évangile est le moyen que Dieu a prévu pour sauver les humains. S'ils n'avaient pas besoin d'être sauvés, et ce texte nous rappelle à quel point ils ont besoin d'être sauvés, il n'y aurait pas besoin d'annonce de l'Évangile. Et deuxièmement, donc, on est plus conscient de la nécessité et de l'importance de l'annonce de l'Évangile en rappelant de façon, au moins de temps en temps, ces doctrines. Et puis deuxièmement, cela nous permet d'être vigilants par rapport à nous, à nos propres vies. Nous avons besoin de grandir, nous aussi, par rapport à l'indignation contre le mal qui est trop faible dans nos vies. Mais aussi, et troisièmement, ce genre de rappel nous permet de nous émerveiller. De nous émerveiller, d'autant plus devant l'immensité de la grâce de Dieu, qui un jour nous a atteints et sauvés et délivrés de tout cela. Le chrétien est peu reconnaissant. Et aujourd'hui nous sommes peu reconnaissants parce qu'on vit dans un monde où on croit que tout nous est dû, mais aussi parce qu'on a oublié ces doctrines. Et donc on ne voit pas l'immense grâce qui a permis de nous sauver d'un si funeste destin. Et donc le rappel de ces choses nous permet d'être encore plus reconnaissants et de voir à quel point encore plus la grâce de Dieu qui nous a atteints est énorme. L'immense grâce de beaux cantiques chantent, des beaux cantiques du 18e, du 18e, du 19e, qu'on chante moins aujourd'hui. Nous parle de l'immense grâce. On a besoin de ces mots pour réaliser tout cela et pour chanter par nos chants et par toute notre vie la gloire de notre grand Dieu Sauveur. Amen.